Jean-Luc Fromental, bonjour.
Bonjour.
Donc, je suis très heureux de vous rencontrer à l'occasion de la sortie d'une romance anglaise, parue aux éditions Dupuis dans la collection Air Libre. Vous êtes le scénariste, le dessinateur étant Maës Hyman. Alors, question bateau, mais pourquoi nous parler de ce scandale profumo qui a secoué l'establishment londonien, voire même l'Angleterre tout entière, au début des années 60 ?
Pour plusieurs raisons. D'abord parce que ça fait suite à un album précédent qui est situé aussi pendant la guerre froide, mais qui se passe en 48, donc il couvre une autre décennie, qui est la décennie d'installation, si on peut dire, dans la guerre froide. Le moment où la fin de la guerre cristallise les blocs et où le mur va tomber entre les deux blocs, l'ouest et l'est. Là, je voulais choisir une autre période et m'intéresser à ces années 60 parce que ce sont celles au cours desquelles je suis arrivé à la conscience. C'est les années de mon adolescence.
Il faut dire que vous étiez en 1950.
Hein. 50. Donc je suis un très vieux monsieur. La période d'émergence d'une conscience culturelle, politique, sociale, politique, fait que, pour moi, cette période est celle de mon éveil, du moment où la chrysalide laisse sortir son papillon. Voilà. Et la chance que j'estime avoir eue, c'est d'avoir été comme un surfeur au bon moment de la vague et d'avoir pris la vague et d'avoir pu la chevaucher jusqu'à la fin de ce qui s'est déclenché dans les années 60 et qui a duré 20 ans à peu près, hein, jusqu'aux années 80 et à l'arrivée des Thatcher, Reagan, des Golden Boy et du Sida. C'est-à-dire le moment où le monde a changé de paradigme, comme on dit aujourd'hui, et est devenu une autre affaire. Voilà.
Étant donné que vous êtes français, est-ce que je vous avais bien vu dans un des affaires politico-policières du style Carlos, Mesrine, ou même avec votre ami Maës, la French Collection, non ?
Alors, curieusement, j'adore les films français des années 70 et les films de bandits populaires avec Belmondo, etc. Mais j'ai pas du tout envie de traiter ces années-là. Si je traitais des sujets là de français, je m'intéresserais plus aux histoires de la guerre d'Algérie, au réseau OAS, etc. J'ai tourné longtemps autour d'idées comme ça. Et puis je me suis aperçu que en fait la bande dessinée s'était vraiment emparée de ça et avait beaucoup beaucoup produit là-dessus, sur cette nostalgie du cinéma des années 50 en noir et blanc avec Lino Ventura et Bernard Blier, etc. Donc Lautner et compagnie. Donc je suis pas sûr que je m'intéresserais à ça. Quant à Mesrine, j'ai eu l'occasion de le croiser parce que c'est l'éditeur pour lequel je travaillais qui avait édité ses mémoires et ça nous a permis de vivre chez Jean-Claude Lattès qui était donc l'éditeur pendant 6 mois avec deux flics avec des Colt 45 dans l'entrée parce qu'il avait promis de venir récupérer ses royalties à la pointe du fusil Mesrine. Donc tout le monde flippait. Mais donc je suis pas sûr d'avoir très envie de jouer avec ça.
Alors donc une romance anglaise, on en a parlé, le coup de Prague également, donc la guerre froide, est-ce que ça demande beaucoup de recherche, ce type d'ouvrage ?
Oui, mais ce sont des périodes qui ont été extraordinairement documentées, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de littérature, de documents qui sont produits sur le sujet, il y a beaucoup de gens, de témoins qui sont exprimés, donc il y a un accès, en fait, très simple, pour peu qu'on ait envie de lire et de s'enfoncer dans la documentation. L'autre avantage, c'est que je choisis des sujets à forte teneur anglo-saxonne, et que j'ai un accès facile à l'anglais. Je veux dire, j'ai été traducteur, je pratique l'anglais régulièrement, et donc l'intérêt, c'est que j'ai accès à des choses que tout le monde n'a pas lues, etc. Donc c'est pas un problème. Le problème serait plutôt la pléthore que le manque. Oui.
Alors donc, c'est votre cinquième collaboration avec Mike Simon. Est-ce qu'il y a un modus operandi? Il faut dire qu'avec maintenant les moyens de communication, il y a plus de 20 présentiels. Comment ça se passe?
Alors Mike a une requête que tous les dessinateurs n'ont pas. Il ne commence à travailler que quand le scénario est terminé.
Ah, carrément.
Ce que je comprends très bien, parce que c'est un engagement tel, le fait de dessiner une histoire comme ça, que il faut pas, il n'y a pas de marche arrière possible. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire dessiner à son dessinateur des trucs et puis arriver trois mois après en disant finalement c'était pas ça du tout et il faut que tu refasses toute cette scène-là. Et lui, précisément, son modus operandi à lui est tel que c'est assez lourd, c'est un travail complexe dans lequel il est, puisqu'il commence par dessiner à la main, crayonner à la main, au fusain. Ensuite, il scanne ces choses-là, il les durcit au scan, il revient sur ces noirs qu'il retouche, et ensuite il passe ses couleurs à l'ordinateur. Donc il y a tout un processus long de mise en scène et de réalisation qui fait qu'il vaut mieux qu'il sache où il va avant de démarrer. Ça, c'est une chose. Ensuite, l'intérêt de fournir un scénario terminé, c'est qu'on a pu juger soi-même en tant que scénariste du rythme qu'on avait envie de donner à l'histoire, de la façon dont l'histoire allait être montée, l'ellipse étant un phénomène qui intervient tout le temps en matière de bande dessinée, c'est-à-dire que chaque changement de case est une forme d'ellipse. Ça peut se réduire à une seconde comme au cinéma, c'est-à-dire qu'on peut avoir des séquences où si on faisait défiler les images comme sur un banc-titre ou un écran, on aurait un mouvement, et puis de temps en temps il y a des cuts complets où on saute d'une scène à l'autre, etc. Et c'est ça en réalité le secret de la bande dessinée. Beaucoup de gens l'ont dit avant moi, c'est ce qui n'est pas montré, ce qui est entre les cases, qui en fait raconte l'histoire. Voilà. C'est un art de ce qu'on cache autant qu'un art de ce qu'on montre, la bande dessinée. Donc le fait de découper en sachant pour quel dessinateur on travaille, je ne travaille jamais pour un dessinateur que je ne connais pas, ou une dessinatrice. Je ne sais pas le faire et je ne souhaite pas le faire. Mais en revanche, connaître le dessinateur et imposer son propre rythme, c'est la garantie que à l'arrivée, le rythme de l'album terminé ne sera pas nécessairement le même. Le dessinateur sera repassé dessus comme un réalisateur au cinéma passe sur un scénario et impose son propre tempo, mais qu'il y aura un rythme. C'est-à-dire que le fait d'imposer soi-même un rythme au scénario donne la nécessité à celui qui vient derrière de repenser au rythme et d'inventer le sien propre. Voilà. Donc c'est une mesure, c'est comme écrire de la musique, c'est une mesure qui est donnée au départ et qui ensuite peut être bouleversée, changée, etc., mais qui va donner lieu à une nouvelle mesure. Voilà. Et ça, c'est très très important pour moi, parce que c'est le secret, je crois, des albums réussis. Il y a des règles simples en bande dessinée, c'est que la bande dessinée ne supporte pas le superflu, ne supporte pas le gras, ne supporte pas la surcharge pondérale, on pourrait dire. Que si vous partez, vous pouvez avoir des digressions, si ce sont des digressions volontaires et contrôlées, mais si vous partez dans la digression, dans le vagabondage de l'esprit, etc., etc., ça s'épuise très vite, ou ça devient ennuyeux, ou ça se perd dans les sables mouvants. Donc il y a un vrai travail là-dessus, sur la gestion de la matière, je dirais.
Alors votre sujet finalement, ben il est quand même fort d'actualité. On pense au compromat des Russes, aux fake news de Trump, et puis on vient d'apprendre la semaine dernière finalement que dans les archives des renseignements britanniques, on a constaté que votre personnage central, donc Stephen Ward, était aussi l'intermédiaire de l'Union soviétique dans la crise des missiles cubains. Heureux hasard, d'une certaine façon, et c'est vrai qu'aussi, quand on a le prince Andrew et Jeffrey Epstein, finalement, c'est toujours d'actualité, tout ça, non ?
C'est toujours d'actualité, il y a toujours des gens qui veulent se mêler de choses qui sont trop grandes pour eux, ce qui est le cas de Ward, qui est attiré comme un papillon par la flamme de la gentry et du pouvoir britannique à ce moment-là, qui est totalement tory, qui est totalement conservateur. C'est le gouvernement Macmillan, c'est une Grande-Bretagne presque post-victorienne dans laquelle on est, où il y a une rigidité absolue imposée au brave peuple anglais, où on s'offusque du moindre genou dévoilé, et où en même temps on s'adonne à des orgies dans les milieux politiques, dans les milieux dirigeants, etc., etc. Donc il y a une hypocrisie absolument extraordinaire à l'œuvre, et donc le personnage de Ward s'approche trop près du pouvoir et se brûle les ailes. Et c'est intéressant parce que la version que moi je défends dans le livre par rapport au fait qu'il ait été un intermédiaire effectivement dans la crise des missiles, Ward, qu'il ait essayé de résoudre ça, je le fais passer sur ce que lui soutenait et où je prends ouvertement son parti dans le bouquin, c'est-à-dire sur du patriotisme, sur une idée qu'on va ramener Albion dans un rôle extraordinaire qui est un rôle de médiateur, et que c'est l'Angleterre qui va pouvoir, ce qui est pour ces idiotes en fait, simplement, et grâce à sa bonne volonté, régler l'affaire entre l'Union soviétique et les États-Unis d'Amérique, entre Khrouchtchev et Kennedy. Il s'avère que j'ai appris récemment, moi aussi, sans dévoilement du MI5, mais j'ai appris que le deal qui existait entre Khrouchtchev et Kennedy était un deal plus complexe que ce qu'on a raconté. C'était pas Khrouchtchev qui, sur un coup de sang, avait décidé d'envoyer les missiles à Cuba pour menacer l'Amérique, ce qui aurait été un peu bête. C'était un bluff de Khrouchtchev d'envoyer des bateaux chargés de missiles vers Cuba pour que Kennedy renonce à installer en Turquie les missiles qui comptaient pointer sur l'Union soviétique, avec quand même à partir d'un pays qui était directement frontalier de l'Union soviétique. Donc on peut dire que le match qui a eu l'air d'être perdu par Khrouchtchev est en fait un match à somme nulle, match nul, puisque Kennedy n'a pas installé ses missiles
15 ans.
En Turquie. Voilà. C'est 15 ans.
Alors, vous citez Othello de Shakespeare, donc réputation, j'ai perdu ma réputation, j'ai perdu la partie immortelle de moi-même, et ce qui reste est bestial. C'était british comme conception, non?
Merci.
La vindicte populaire, est-ce que c'est pas typiquement anglais comme...
les mégères à la sortie du tribunal qui insulte le type, qui le traite de souteneur, de salaud, de traître, etc. C'est terriblement britannique. Il y a une espèce de... C'est un peuple admirable, les Anglais. On les a vus pendant le Blitz, on les a vus... leur littérature est admirable, etc. Mais il y a ce côté aussi, cette espèce de veine populiste britannique qui est terrifiante et qu'on voit réapparaître aujourd'hui à travers le Brexit où des gens, où est-ce que je lisais cette histoire-là, des gens se font insulter dans la rue parce qu'ils sont pas d'ici, simplement parce qu'ils sont étrangers, mais c'est même pas des gens, c'est pas les cibles habituelles du racisme ordinaire, c'est carrément des étrangers qui viennent, je sais pas quoi, de Pologne ou machin, où on leur dit, mais qu'est-ce que tu fous là, rentre dans ton pays, etc. C'est-à-dire que les gens peuvent être très violents et sans retenue. Alors qu'en France, par exemple, on a l'habitude d'un racisme plus feutré, plus sournois, où on va plus écrire à la commandanture pour dénoncer un juif, mais pas directement agresser les Pakistanais dans la rue.
La musique est omniprésente dans cet ouvrage. Est-ce que elle fait vraiment partie du paysage? Est-ce que pour préparer dans votre écriture, est-ce que vous écoutez du Beatles ou du Rolling Stones?
J'ai écouté. Je travaille beaucoup
dans la
musique et ça va de Sibelius au Pink Floyd en passant par PJ Harvey, etc. C'est-à-dire qu'il y a tout, il y a du classique, il y a du jazz, etc. Là, précisément, j'ai épargné au lecteur de faire comme Cosette, c'est-à-dire de mettre les disques à écouter en lisant l'album, mais j'ai fait une playlist pour l'album. Ah. Et j'ai choisi, parce que la musique est effectivement un papier tournesol, un témoin absolument précis
l'époque.
De l'évolution et du bouleversement qui est en train de couver sous les cendres. Et on commence avec les Shadows et Julie London qui sont encore de la musique assez variété, assez raisonnable, etc. Hein, ça reste Cliff Richards, machin, ça reste. Et puis on arrive avec le Calypso, c'est-à-dire les West Indies, c'est-à-dire la Jamaïque, etc. Les Noirs, les premiers Noirs en fait. Qui commence à s'installer vraiment en Angleterre, la première vague migratoire noire en Angleterre, puisque ce sont des gens qui sont du Commonwealth et qui arrivent à Londres pour chercher du travail, hein, tout simplement. Et puis, on continue avec les Stones, avec les Beatles et avec ce qui va incarner, en fait, ce que moi je veux faire apparaître dans le livre, c'est-à-dire cette vague de jeunesse à laquelle j'appartenais, qui va balayer tout ça et qui va envoyer à la casse tout ce gouvernement pourri jusqu'à la moelle, etc. C'est-à-dire la beauté de cette révolution qui commence et où le peuple s'empare du sexe qui lui était interdit ou sur lequel il y avait un jugement terrifiant de la part des autorités, mais qui, elle, se la donnait à pire que ça en termes de turpitude sexuelle.
En 89, Michael Cotton Jones avait réalisé un film Scandale, plus focalisé sur Kissing Killer. Vous l'avez vu, je suppose ?
Non. J'ai un principe vraiment là qui consiste à ne jamais regarder des films qui concernent les sujets sur lesquels je suis en train de travailler. Parce que, par exemple, là, je viens de terminer une adaptation de La neige était sale de Simenon que Isler est en train de dessiner, qui paraîtra chez Dark l'année prochaine. Il y a un film très connu avec Daniel Gélin et Raymond Rouleau, et j'ai évidemment pas regardé le film pour que mon adaptation soit pas du tout contaminée par celle qui a été faite avant moi. J'ai beaucoup de respect pour les adaptations qui existent, on est très mal placé là tout d'un coup.
Alors le cinéma, une dernière question, le cinéma, bon, ça fait partie également de votre vie. Si on reprend deux petits exemples quand même assez marquants, 2015, Pourquoi je n'ai pas mangé mon père, co-scénarisé par vous-même, donc réalisé par Jamel Debbouze, et en 2019, la fameuse Invasion des ours en Sicile, présentée à Cannes, et que vous aviez co-écrit avec le prolifique Thomas Biglin. Est-ce qu'on peut dire que ce sont deux arts, le 7e et le 9e, complémentaires, ou vous les voyez comment, vous qui partagez votre cœur entre les deux?
C'est pas du tout en termes de logistique, c'est pas du tout la même chose. Le cinéma, ce qui domine dans le cinéma, c'est son coût. C'est-à-dire que c'est toujours très cher de faire un film. Donc, le poids qui pèse sur le scénariste, qui est la première mule dans le cinéma, c'est la mule qui porte le fardeau pendant tout le temps que le film n'est pas encore monté. Donc, ça représente une charge écrasante, énorme. Mais ensuite, une fois que le scénariste est passé, il dégage. On sort du jeu et c'est le metteur en scène qui entre en jeu. Donc c'est un travail qui est très différent, qui peut être très plaisant, que moi j'ai adopté l'audiovisuel pour sortir de mon cocon et aller travailler et collaborer avec des gens, parce que c'est un travail d'équipe, c'est un travail de collaboration, c'est un travail où toutes les corps de métier doivent à un moment travailler ensemble, j'ai fait du dessin animé parce qu'il n'y a pas de tournage dans le dessin animé à proprement parler, et que donc quand il n'y a pas de tournage, pas de comédien qui prenne le pouvoir, pas de réalisateur qui va chasser tout le monde pour être seul sur le plateau avec ses comédiens, le résultat est différent, si vous voulez. Ce sont des trains qui convergent, le dessin animé, c'est-à-dire que l'écriture peut continuer longtemps après que la réalisation ait commencé, puisque la réalisation commence au moment du storyboard, donc le storyboard impose une réécriture, etc., etc. Donc il y a une présence plus effective du scénariste, mais le poids est énorme, et par exemple l'expérience de Pourquoi j'ai mangé mon père a été horrible, parce que j'avais écrit un état du scénario et il s'est passé 8 ans ou 9 ans avant que Jamel Debbouze ne reprenne en main le projet, et que donc à l'arrivée le projet ressemblait plus à, du tout à ce qu'on avait fait et ce qu'était notre intention à nous. Donc c'est comme si je regardais, d'ailleurs j'ai pas du tout aimé ce film pour être franc, mais c'est comme si on regardait un film comme un spectateur, voilà. Là je vous parle d'un livre que j'ai terminé il y a eu 8 mois ou un an, c'est comme si je l'avais quitté hier, et il est encore très proche de moi parce que j'y ai été impliqué du début à la fin, voilà. Et pour l'invasion des ours, qui a été une histoire très heureuse parce que Thomas Bidguin est un scénariste professionnel, ce que je n'ai jamais été, moi je suis un mercenaire du scénario dans le cinéma, lui c'est une créature du cinéma, il vit par le cinéma, il respire le cinéma, ça a été génial de confronter nos cerveaux. Et puis Lorenzo, qui est un type que je connais depuis 30 ans, avec lequel ça a été un délice de travailler, parce que c'est un homme de la bande dessinée, c'est un homme du dessin, c'est un homme de l'image, donc c'était très bien. Mais là encore, c'est un film qui a pris 7 ans à faire et qui a connu une belle notoriété en termes d'accueil dans le monde entier, mais qui n'a pas fait les entrées nécessaires pour rembourser le budget phénoménal qu'il avait mobilisé pour un film français.
Voilà. Jean-Luc, un grand merci. Donc on rappelle, Une romance anglaise aux éditions Dupuis. Merci.
Merci.